Pour mieux entrevoir l'après, il est indispensable de connaître l'avant. Ça tombe bien, c'est justement le thème de l'émission qui suit. Bienvenue dans CMA. Bonsoir et bienvenue dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses, sur Radio G et sur Fréquence Zik. D'ailleurs, on a les premières audiences de Fréquence Zik, l'émission cartonne, alors merci à vous qui nous écoutez toujours plus nombreux. En fin d'émission, on découvrira celui ou celle que les auditeurs ont publicité pour que sa chronique de la précédente émission soit dans le podcast Plus de Radio G. Alors, si c'est une émission passionnante, hein, c'est bien sûr grâce à ses sujets divers, mais c'est surtout grâce à ses chroniqueurs. Voici le sommaire. Alors, il y a des gens qu'on ne peut pas sentir, d'autres qui sont en odeur de sainteté. Elles, quand elles voient, elles se sentent plus, hein, voilà. Il faut qu'elles fassent un selfie. Mais quand on écoute une de ces chroniques, eh bien, on se sent bien. Bonsoir, Caro.
Ah.
De quoi on parle ce soir ?
Bien, on va parler du parfum. Et oui, ce soir, ça cocotte en plus dans le studio. Donc, on va voir les origines des fragrances, histoire de se mettre un petit peu tous au parfum.
Oh, jeu de mots. Hein. Lui, il adore les choses qui s'emboîtent. Il les tourne dans tous les sens pour que ça rentre, que ce soit long, court ou avec un angle. Il remplit sa colonne sans la faire déborder trop vite. Bonsoir, Mathias.
Bonsoir.
De quoi tu nous parles ce soir ?
Alors, ce soir, je vais vous parler du casse-tête qui a le plus gros succès au monde.
Ah ah ! Bon, on verra ça. Je pense que j'ai aidé un peu avec la présentation, mais on verra. On dit que pour faire partie de CMA, il faut avoir la carte. Eh bien, pas du tout. On adore découvrir de nouvelles personnes. Elle a eu son CMA Plus dès la première émission en nous faisant une chronique à la carte. On connaît maintenant son identité. Bonsoir, Sandra.
Bonsoir. Donc, je vais vous parler de la carte d'identité qui est si précieuse puisque quand on la perd, on panique.
Ah, ça c'est clair. Hein. Ouais. Moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Oui. Bonsoir, Sonia.
Bonsoir, mon Bruno.
Quel est ton sujet ?
Ah, tout de suite, quand tu me parles comme ça, Eh bien, ce soir, vous l'aurez peut-être compris, je vais vous parler, tenter de vous faire découvrir un peu l'histoire du titre mondialement connu de Francis Cabrel, « Je l'aime à mourir ».
Très beau programme pour cette première partie. La suite sera aussi explosive, hein, puisque nous parlerons de CBD, de King Kong, de piano et même de bourse et prise de liberté. Alors, n'attendons pas une seconde de plus que la première partie de CMA commence. Pour préparer l'émission, généralement, c'est le grand brainstorming dans la tête des chroniqueurs. Quelquefois, on n'a pas trop d'idées. Alors on demande aux copains. Et pour cette semaine, Caro, qui parle généralement de vêtements, a fait appel à notre sagacité. On lui a proposé de faire un sujet sur le slip. Résultat, on a une chronique sur le parfum. Alors il y a des connexions étonnantes, hein, quand même, dans son cerveau. Voici la chronique de Caroline.
J'allais dire rebelle.
Eh bien oui, ce soir on va parler du parfum. Alors on pourrait tous croire qu'il date de l'Antiquité, n'est-ce pas ?
Oui.
Mais en fait, il faut remonter à la préhistoire. Les premiers hommes, en fait, ce sont eux qui ont vraiment découvert ce qu'on peut appeler le parfum de l'époque, quoi. Surtout après la découverte du feu, en fait, ils faisaient brûler du bois, des végétaux, des aromates, et ils se sont aperçus qu'une fumée odorante s'en dégageait. Voilà.
Ils se parfumaient avec ça, en fait.
Voilà,
ils se mettaient ça ils se mettaient ça autour de...
Eh bien, en fait, il y avait ce petit côté un petit peu encens qui a commencé un petit peu comme ça. Et c'est d'ailleurs de ce nom-là, en fait, de cette partie-là de l'histoire qu'on tient le nom parfum, puisqu'en fait, ça vient du latin perfumum, qui signifie par la fumée.
Ah.
C'est magique.
Ah, parfum. Oui, d'accord, ça y est.
Perfumum,
j'ai
par
percuté.
La fumée.
Ça y est, ça y est.
Voilà, bim. Et en 8500 avant Jésus-Christ, les hommes se frottaient le corps avec des aromates pour attirer le gibier. Voilà. Moi, j'en connais qui font ça encore.
Hein, oui, pour attirer les filles, c'est ça.
Mais, et donc, voilà. Pour rassembler les deux, vous avez l'origine.
Mais c'était les hommes. Les femmes se parfumaient pas.
Bah, pour la chasse, plus les hommes. Et en fait, aussi, après, les hommes, les femmes jetaient au feu pour que ça crée une petite ambiance. Hein, c'est le début des pots pourris.
Afrique aussi, c'était peut-être un moyen aussi pour transpirer, suer et pouvoir se nettoyer aussi. C'était leur
Alors possible.
Ouais, parce qu'on se nettoyait pas beaucoup à l'époque, donc effectivement, on rajoutait des choses.
Alors voilà, mais alors en vrai, véritablement, c'est avec l'Égypte que le parfum devient une fragrance divine et surtout un véritable commerce. À l'époque, il était fait à partir d'huile végétale ou de graisse animale auxquelles on ajoutait des fleurs, surtout la marjolaine et l'iris, mais aussi des résines comme la térébenthine et le bon joint.
Le quoi?
Le bon joint.
Le bon joint. D'accord.
Le bon joint. C'est comme
non,
ça.
Non, d'accord, d'accord.
Alors, c'était surtout utilisé à la base pour sa fonction religieuse et mystique, évidemment. Hein. Il sert à communiquer avec les esprits pour les rites funéraires, l'embaumement, etc. Donc, la première eau toilette est ainsi créée. Elle est appelée le kifi. Et elle est alors créée à base de miel, de raisin, de vin, de myrrhe et de safran.
Les myrrhes pour faire la vaisselle
Bruno, non.
Non,
tu peux mieux faire en plus.
Ok, ok.
Non, mais c'est un petit côté un petit peu huileux, quoi. Voilà, ouais. Donc ça, c'était la première vraie eau de toilette. Donc ça devait être un peu fort, hein, mais sympa.
Puis avec du miel et tout, je te dis pas, ça va être sur la peau, c'est une ongle plutôt qu'un parfum.
Oui, c'est ça.
Il n'y avait pas d'alcool.
Exactement. Elle sert de fumigation pour les dieux.
Ok.
Voilà. Donc on y trouve, bien sûr, évidemment, aussi un usage thérapeutique pour soigner les maux de tête et surtout les maladies gynécologiques.
D'accord.
Sympa. Et surtout, alors les Égyptiens...
Je vois où tu mets ton parfum, oui.
Mais alors, en fait, les Égyptiens commencent à avoir aussi le culte de l'apparence et surtout de la propreté et de la séduction. Donc Cléopâtre, on le sait tous, elle se délassait dans des bains de lait.
Ah oui, mais... Cléopâtre, le savon, c'est ça? Oui. Ah bah j'ai des références historiques, moi.
C'est ça.
Ouais, je suis
des bains de lait, mais aussi de cannelle, d'amande, et on parfumait aussi sa perruque et toutes ses coiffes. Donc, grâce au commerce avec les Crétois et les Phéniciens, le savoir-faire arrive en Grèce et aux divers comptoirs du Proche-Orient. Donc, grâce à Alexandre le Grand, on découvre d'autres senteurs, des senteurs d'Inde, le santal, la muscade, etc. Voilà, ça vous ravive
c'est
quand
vrai,
même un
c'est
petit
vrai,
peu
on
là,
sent...
ça fait
ouais,
rêver un petit
en
peu,
En écoutant ta chronique, on sent déjà les choses.
Ah ouais. Et bien sûr, alors, dans la Rome antique, on atteint l'apogée du parfum. On parfume tout, même les animaux et la nourriture. Voilà, on aimait bien un petit peu le faste, etc. Donc on faisait des lâchers de colombes et on leur parfumait les ailes de rose. Et voilà, il faut
les
s'imaginer.
Les colombes. Oh là
c'est
là
l'opulence, voilà. Et c'est grâce à Rome, en fait, qu'il y a eu beaucoup d'expressions liées au parfum, comme tu disais tout à l'heure, comme être au parfum, puisqu'en fait, on disait être au parfum pour les lieux de communication et drago, un
donc
petit peu de
courant.
La cité,
okay.
Être au courant. Il y avait un fort quartier de parfumeurs et en fait, cette petite rue de parfums et de parfumeurs à Rome a créé un vrai... business mondial de parfums. Et en fait, de là est née toute la base du commerce de la parfumerie et toutes les expressions. Voilà. Alors, pour vous, quel est le parfum le plus vendu actuellement au monde?
Numéro 5
numéro
de Chanel.
5.
Oh, ouais. Mais c'est trop facile. Ah. Ah, je peux même plus vous coincer.
C'est le seul qu'on connaît vraiment, en fait. Donc
Et ouais, c'est le numéro 5 de ouais. Chanel. Numéro 5 parce que c'était le cinquième échantillon de la gamme. Et cette année, il fête ses 100 ans.
100 ans ouais. Ah ouais.
Exactement.
Ça, je savais pas.
Voilà,
très
voilà.
Bien. Merci Caro.
De rien.
Allez, on va jouer maintenant. Même Sonia connaît ce jeu. C'est pour dire qu'il est connu. Hein. Pourtant, son histoire a tout d'une série Netflix. Ready Player One, Mathias est dans le game.
Ça devait être
parfait. Ouais.
Ça donne une idée de quel jeu tu parles, cette musique.
Légèrement,
pense.
Oui.
Légèrement.
Alors, nous sommes en Russie, en 1984.
Da.
Tout commence lorsque... Alors, Pajitnov, j'arrive pas à le prononcer.
Pajitnov,
jeune chercheur de l'Académie des sciences de Moscou, achète un jeu de société constitué de pentaminos. Donc c'est des figures en fait constituées de 5 carrés, des formes géométriques, qu'il faut rentrer dans un carré en fait. Il faut compléter toute la forme du carré avec toutes ses formes. Celui-ci, vite accro à ce jeu, qui consiste à faire rentrer donc toutes ces pièces, décide de le transporter sur un ordinateur. Mais pas un bon vieux PC,
ah
parce
oui,
que ça n'existait pas encore.
Oui, je pensais à du truc.
Donc c'était sur un Electronica 60.
Ah, il en a encore un, Sonia.
Oui. Oui, mais un jour, ça va coûter cher, ça.
Donc c'était un ordinateur russe, en fait, à l'époque, dans lequel on rentrait du texte. Et il n'y avait que des formes de texte, donc il créait ces formes géométriques avec juste des parenthèses et des guillemets,
oui,
des
d'accord,
choses comme
comme
ça,
on faisait les smiles dans le temps.
C'est
donc
ça.
Il crée des... D'accord.
Donc il se rend compte que c'est très amusant de faire pivoter des formes géométriques et de les faire chuter en bas de l'écran. Et après quelques changements, les pentaminos deviennent des tétraminos, des figures composées de 4 carrés.
Tétra.
Et une ligne est programmée pour disparaître dès qu'elle est complétée par le joueur. Donc Tetris, en fait, c'est la contraction de tétraminos et tennis.
Ah.
Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors pourquoi tennis, bon.
Ouais, par contre, ouais.
Ouais, je sais pas, est-ce qu'il y a un côté...
Il y a un côté, ouais, de balle, ou je sais pas, ou de... Bon, pourquoi pas. En tout cas, deuxième mot qu'on apprend ce soir, d'origine.
Tennis.
Tennis. Ça, c'est...
Alors en fait, donc, ce jeu, il a fait le tour des labos en Russie. Tout le monde est devenu complètement fan, ça a été dément au point où même la productivité en fait, de ces gens-là a baissé.
Ah oui, parce que tout le monde jouait.
Tout le monde jouait, tout le monde était accro, c'était la folie. Et ça a tellement eu une réputation de dingue que ça a été jusqu'à l'oreille d'un Anglais dénommé Robert Stein, qui s'est décidé en fait, de s'accaparer ce jeu et la licence. Enfin, c'était très compliqué pour l'exploiter dans le reste du monde. Donc alors il y a une grosse histoire en fait digne d'un trailer financier où l'éditeur londonien Microsoft et surtout le japonais Nintendo, ah c'est pas Microsoft pardon, je me confonds, je sais pas, c'est Mirrorsoft.
Mirrorsoft oui, ouais. Parce que c'est pas c'est américain.
Ouais.
C'est
pas... Où ils sont disputés la licence du jeu du Tetris et alors ça s'est joué avec des fax, il y a eu un fax qui a servi de document alors qu'en Russie c'était pas légal.
Il y a de la magouille quoi.
Oui, il y a la sauf qu'en fait Russes, en Russie en fait l'appartenance de culture ne s'appartenait pas à soi-même encore à ce moment-là.
Ah, oui.
Et donc c'est le labo qui a voulu s'approprier la licence, enfin ça a été un truc
Donc le gars a rien quoi.
Le gars il a rien, j'ai regardé mais des tonnes de vidéos pour vraiment comprendre l'histoire, le dénouement de tout ça et c'est hyper compliqué. Enfin donc il n'a rien touché. Hop, excusez-moi, je regarde où j'en suis en même temps.
Donc le gars, il a rien touché, le pauvre. Ouais. C'est dommage, parce que ça s'est vendu à des millions d'exemplaires. Hein.
Et ça a été très très loin en plus. Partout, donc il passe. Par contre, le jeu, il continue à avoir une réputation. Enfin, les gens deviennent accros. Donc c'est Nintendo qui finit par s'accaparer le truc. Avec sa Game Boy, du coup, la toute première Game Boy en noir et blanc qu'on a connue. Le jeu était implanté de base
Sonia
dedans.
A fait oui.
Tu as connu Sonia la Game Boy?
J'ai connu, oui.
Ouais. Et Tetris, tu jouais aussi?
Oui.
Ah bah
oui.
Ah bah oui.
C'était le jeu phare. Hein.
Tout le monde.
Le
B.A.B.A.
Ouais, quand même.
Eh ben, le jeu rapportera 32 millions d'euros à l'éditeur. Et zéro, du coup, au créateur du jeu.
Créateur.
Ouais. Ouais, ouais. Du coup, il a quand même réussi, en 95, à commencer à toucher 50% de son bien. Et c'est que 20 ans plus tard, en 2015, qu'il aura... totalement le plein pouvoir de son jeu.
Pas...
Non, il est pas mort. Il va très bien ce garçon.
D'accord.
Mais par contre, il a quand même raté 20 ans de.
C'est clair, de vache maigre. Ouais, qu'il avait un trésor sous la main.
Il était triste.
Oh là 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 là. La petite info en plus.
Ah, la petite info en plus, c'est l'origine de la musique.
C'est quoi?
Et en fait, c'est une musique alors de un nom à coucher dehors.
D'accord.
Non, de Korobeiniki.
Ouais.
Alors, la chanson s'appelle comme ça, de Nikolai Nakrasov, qu'on connaît également la chanson sous le nom de Karobucha.
Attends. Ah oui! Ah, t'imagines ça sur le jeu? Ça ferait bizarre d'avoir ça.
La petite info en plus, c'est que justement, c'est que les Russes étaient très fiers de ce jeu-là au départ, et ils avaient mis donc cette musique, que ça devait vraiment rester une musique de chez eux. Et les graphismes et tout, c'était des paysages de chez eux, avec des logos vraiment russes. C'était, j'ai regardé les premières images, c'était assez impressionnant, ça ressemble pas du tout au Tetris aujourd'hui.
D'accord.
Et très sympa du coup.
Très bien, merci Mathias. Dans un instant, nous parlerons de votre identité, et on aimera à mourir. Mais là, il est temps de retrouver le Graal, cette pastille qui répond aux questions que vous nous posez sur le site radio-g.fr. Aujourd'hui, le Graal compte les tours du château d'Angers.
Question d'Eddy de Nantes. Combien le château d'Angers a-t-il de tours?
C'est pour me défier ou bien ton Wikipédia est en panne? Ok, on va faire un tour. Bon, le château n'est pas tout neuf. Hein. Le premier petit fort date du 9e siècle, c'est peu dire. Quelques temps plus tard, après moult guerres et changement de proprio, c'est Blanche de Castille et son marmot Saint-Louis qui prend une carte de fidélité Castorama pour relooker la chose et en faire une véritable forteresse. Pour répondre à ta question, Eddy, il y a 17 tours de 12 mètres de large et espacées de 20 mètres. Le chemin qui les relie fait plus d'un kilomètre. Ça va continuer à se friter et on va faire des tours des terrasses pour l'artillerie. Le château est alors devenu une prison, puis un dépôt d'armes. Il est plus pacifique aujourd'hui en abritant une tapisserie du Moyen-Âge. C'est bon? On a fait le tour?
C'était le Graal à retrouver sur Instagram et Facebook avec les comptes Questions Graal. Posez toutes vos questions au Graal sur radio-g.fr, rubrique contact. Vous êtes toujours dans CMA sur Fréquence Zik et Radio G 101.5 FM à Angers. Et ce soir, nous contrôlons vos identités. Voici la chronique de Sandra.
Ok, papier d'identité. Wesh, c'est bon, je l'amènerai tard plus. Je ne fais que mon métier. T'as qu'à dire, tu m'avais pas vu.
Wow, yo, vas-y, va.
Alors, je suis petite, de forme rectangulaire. J'habite dans votre sac à main ou dans votre portefeuille. Je connais tout de vous. Je suis centenaire. Qui suis-je ?
Donc, la carte voilà, d'identité.
La carte d'identité. D'un certain côté, je suis également, on pourrait dire, une carte de fidélité, puisque cela fait 100 ans cette année que je vous accompagne dans toutes vos démarches administratives pour témoigner, effectivement, de qui vous êtes. J'ai un siècle. Vous vous rendez compte ? Un siècle d'histoire. Je suis née en 1921 dans le département de la Seine. Ce fut d'abord une sorte d'expérimentation en fait, qui a été limitée à Paris. En fait. Enfin, c'est-à-dire que la carte d'identité, on va dire, c'est une expérience qu'on a tentée à Paris. Seulement.
Parce qu'avant, on avait quoi ? Alors, c'était juste une feuille, alors ?
Avant, non. Bah, avant, c'était autre chose.
Ok, on y reviendra.
Je vais dire après, mais okay. C'était... L'objectif, du coup, était de pouvoir distinguer les honnêtes gens, en fait, et les malfrats, beaucoup plus vite.
Ah, ben non, maintenant tout le monde l'a, hein.
Maintenant tout le monde l'a. Bien que. On va voir. C'est donc une décision d'abord policière, en fait, qui permet de la mise en place de la carte d'identité, initiée par le préfet de police Robert Lelier.
Enchanté.
Je sais même pas si, pas si je le dis bien, mais bon, Lelier.
Tu t'écoutes pas.
Donc je suis en papier jauni, beige, on va dire. Et je recense toutes vos caractéristiques physiques, telles que l'empreinte digitale, la taille, la couleur de vos cheveux, de vos yeux, la forme de votre moustache même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les anciennes cartes d'identité.
Mais déjà à 100 ans, on connaissait les empreintes digitales il y a 100 ans ?
Moi, j'ai des anciennes cartes d'identité de 1940, par exemple.
Ouais.
Il y a l'empreinte digitale, il y a la taille, la couleur de vos cheveux, de vos yeux, la forme de la moustache. Il y a marqué moustache. Alors, encore mieux, la forme de votre visage. Et c'est la forme de votre nez qui est d'une manière très précise, c'est-à-dire qu'il y a marqué nez en fait, et sur le côté vous avez le dos, la base et quoi d'autre j'ai dit ? Le dos, la base et le nez, savoir de
si c'est un gros nez, gros plat, mais c'est horrible.
Les drons.
Et du coup c'est vraiment très précis, j'étais étonnée quoi.
Ouais c'est ça ouais, bombasse.
Et il y avait forcément le nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et adresse. Et il y avait aussi le métier.
D'accord.
Voilà.
Ah oui, il est en train de montrer une carte d'identité, c'est vrai.
Autant dire que c'était très, très complet.
Ouais.
Alors, bien entendu, on va dire que c'était... En fait, on va dire que c'était une véritable carte d'anthropométrie. Et anthropométrie, alors, ça veut dire que c'est une technique d'identification des nomades utilisée avant la carte d'identité, qui n'était que pour
d'accord.
les nomades.
D'accord, ok.
Parce que, bon... Les nomades étaient sûrement réputés un peu de voleurs, j'imagine. Et du
donc
coup,
c'était des fiches, on fichait quoi.
Et on fichait, ouais. Voilà, c'était pour les cibler les voleurs, les criminels.
Mais
etc.
il fallait qu'ils aient la carte avec eux, par contre.
Il fallait qu'ils aient un carnet d'anthropométrie, je crois, c'est ça.
Ok.
Et donc ce procédé, le procédé sur lequel s'appuie le contenu de la carte d'identité de l'époque, se nomme le bertillonnage, inventé par Alphonse Bertillon en 1880. Donc le bertillonnage, c'était lié à pour identifier justement les criminels, en fait, faire des fichiers de criminels. C'est donc pour cette raison, on va dire, que le projet de la carte d'identité n'est pas apprécié, évidemment, par le peuple, car les gens ont l'impression d'être fichés comme des vulgaires voleurs. C'est une forme de sécurité pour la nation, mais aussi une forme d'atteinte, finalement, à la liberté individuelle. Et les journaux sont assez provocants. Donc exemple, un extrait de l'Humanité, le 13 septembre 1921.
Ah ouais, l'Humanité, j'imagine, oui.
Il dit « Une carte, ça se perd, ça se remplace, ça se fabrique, nulle certitude. Pourquoi n'avoir pas recours à une opération plus simple et plus facile ? On collerait sur le poignet droit de chaque individu un cachet indélébile portant son nom, le signalement avec sa date de naissance, condamnation et signature officielle. Il n'y aurait plus qu'à relever la manche pour justifier de son identité. » Vous dites qu'un homme peut perdre son poignet, devenir manchot ? Évidemment, évidemment. Alors je ne vois plus qu'une solution. C'est de nous faire tatouer notre état civil sur le nombril.
Voilà, il y a l'humour. L'effort. Oui, c'était de l'humour,
mais
j'imagine.
C'était
oui.
assez. C'est provoquant quand même. Ça, ouais. ça pourrait rappeler même des choses.
Après, c'était prémonitoire, oui.
C'est ça. Autant dire que la carte d'identité, du coup, n'était pas du tout désirée. Et dans la province, c'est-à-dire, puisque je vous ai dit, c'était qu'à Paris, en fait, au début. Donc, en fait, on pensait que ce serait juste provisoire, que ça n'avait aucun avenir, en fait. Et pourtant, on va dire, elle en a fait du chemin, cette carte. À présent, elle est biométrique, c'est-à-dire elle est à puce. Notre photo et nos empreintes digitales, en fait, sont dedans. Et on peut alors comparer ces données à d'autres données, en fait, de plusieurs personnes qui figurent dans une base. Sa durée de validité est de 10 ans au lieu de 15 auparavant, et elle est plastifiée. Alors comment faisait-on effectivement avant l'apparition de la carte d'identité pour nos démarches administratives ? Il fallait tout simplement amener deux témoins en fait, de parenté pour témoigner de sa bonne foi. Donc à chaque démarche administrative, il fallait que deux personnes disent bah, « oui, c'est bien Madame un tel ou Monsieur un tel, né... » Et donc forcément, il y avait des usurpations d'identité très facilement, puisque
il fallait payer des gens pour
Ça. En fait, on pouvait très bien aller dans le bistrot du coin ou payer un inconnu, enfin deux inconnus, parce qu'il en fallait deux quand même. Et du coup, bah les témoins étaient là pour dire bah témoigner. Oui, c'est d'accord. bien celui-là.
Mais alors du coup dans les autres pays c'était pareil, parce que là tu dis c'est la France là, mais les autres pays on fait pareil du coup.
Alors j'avoue que je suis restée sur la France.
France, d'accord.
Donc comme je disais, être ou ne pas être, telle est la question. Oui. Donc comme je disais, il est très facile de duper son monde et de se faire passer pour un autre. Et en plus, l'usurpation d'identité est tellement élevée de nos jours, c'est-à-dire maintenant quoi, qu'on n'a pas le droit en fait de garder son ancienne carte si on en fait une nouvelle. Parce que j'ai refait la mienne, moi, il n'y a pas très longtemps.
Il faut la détruire.
La mienne et j'ai pas pu la prendre.
Ah oui, il la garde, d'accord.
Voilà. Et en fait, il la garde.
Pour éviter qu'il la donne à quelqu'un.
Non, il la détruise, oui, justement. Et finalement, fin, moi, je trouve ça dommage parce qu'en fait, je me dis que je connais toutes les données, les informations de mes arrière-grands-parents et autres. Enfin, je ne dis pas de mes grands-parents, mais vraiment d'avant. Je les connais parce que j'ai retrouvé leur carte d'identité dans les papiers.
Ah oui, d'accord.
Et je me dis, en fait, c'est une sorte de transmission qui ne se fera plus. Voilà. Enfin,
On peut
transmettre autrement, je ne dis pas le contraire.
Regardera Facebook.
Mais je ne sais pas. C'est
avec Facebook, tu auras tout.
Papier,
même plus
si ça existe
plus
encore.
Parce sur la carte. Oui, si c'est pas en panne, oui.
Voilà, c'est ça. Donc, je termine quand même, je n'ai pas terminé. Donc, selon vous, la carte d'identité est-elle obligatoire ?
Non, je pense qu'on peut utiliser d'autres. Enfin, il y a une identité est obligatoire, mais voilà, mais ce n'est pas forcément cette carte-là.
Ouais.
Voilà, donc effectivement, dans la loi, elle n'est pas obligatoire. On peut la remplacer par le permis de conduire, le livret de famille, voire le passeport. Passeport dont je vous parlerai aussi prochainement, parce que j'ai hésité.
Ah.
Et c'est très bien aussi, le passeport.
Il y a une autre histoire pour le passeport.
Il y a un autre passeport, oui, c'est très bien. Mais par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que pour le permis de conduire, ou même le passeport, oui. Est-ce qu'on aurait besoin de la carte d'identité, en fait ?
Non, tu peux
si
présenter en France.
Si on veut voyager, oui,
voilà, c'est uniquement pour la France. Hein. Si tu veux voyager...
Non, mais pour faire son permis de conduire, je me pose la question si on n'a pas besoin de
la
prouver
carte,
sa carte.
Alors, du coup, c'est l'administration.
Pour le passeport, là.
D'accord.
Moi, je
bon, on se renseignera. Hein.
Mais, du coup, je me suis dit que c'était peut-être l'extrait de naissance, en fait, qui serait vraiment la base, en fait.
Bon.
Et donc, dans les pays européens, le Danemark et l'Angleterre, en fait, sont des pays qui n'ont jamais eu de carte d'identité. L'Angleterre a bien essayé plusieurs fois, même dans les années 2000, là. Mais en fait, les Anglais, ils refusent totalement la carte d'identité parce que pour eux, c'est vraiment une atteinte à la liberté.
Mais donc, du coup, c'est quoi ? Ils ont...
Non, ça va être
un acte
pareil,
de naissance
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais. Quand ils voyagent dans un autre pays, de toute façon, c'est quand même... le passeport,
ou un passeport,
quoi. Ouais, c'est ça.
Et donc,
très bien.
De la carte d'identité au passeport, il n'y aurait peut-être qu'un pas pour vous parler du pass sanitaire, mais il faudra peut-être attendre 100 ans pour en comprendre l'histoire.
En attendant,
prenez soin de votre identité.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Merci Sandra. Allez, parlons musique maintenant. Elle n'a pas son pareil pour nous raconter les histoires et les origines des chansons. Voici la plage musicale de Sonia. Goût de top 50.
Ah oui, merci Bruno. Ça faisait un peu ça, non ?
Ouais. Allez, on y va. On est content.
Eh bien, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce soir, je vous propose de découvrir donc l'histoire d'un titre français mondialement connu. Eh bien, oui, c'est possible. Et il s'agit de la chanson « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel.
Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir.
Oh, c'est magnifique.
Elle porte des chanter, rubans.
Ouais, t'as vu, il pleut. Il va pleuvoir. Ah, alors, c'est plus facile à chanter que Jules. Hein.
Que du Jules.
Oui, non, mais c'est pas grave. J'ai rien dit.
Jules.
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 Ah, bah, c'est un peu ça.
Alors là, les amis, je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Donc, il faut revenir quand même à l'histoire. Donc, le premier album, Les Murs de Poussière de Francis, est sorti en
Francis.
77.
Comment
Francis.
Elle l'appelle, Francis?
Et donc, en 77, eh bien, finalement, il débute hein, sa carrière et son album se vend très peu, malgré, à l'époque, le titre Petite Marie, qui date déjà des années de 77. Moi, j'en revenais pas.
Ah oui.
Et donc, il va donc travailler sur son deuxième album, donc à la fin des années 70. Et donc, les 10 pistes de son album étaient déjà prédéfinies. Et son album s'appelle donc s'appelait Les Chemins de Traverse. Donc, les pistes étaient déjà prêtes. Et puis, il a un ami qui lui fait découvrir le picking. Alors, peut-être pour les musiciens et d'autant plus pour les guitaristes. Le picking, donc c'est une technique de pinçage des cordes sur une guitare. Donc, il va découvrir cette technique, il va s'entraîner et sur cette technique, il va composer en seulement une heure. Donc, la mélodie de Je l'aime à mourir. Et il se dit finalement, il restait que 3 jours d'enregistrement donc, pour son album. Il se dit, il faut absolument que cette chanson qui n'était pas prévue y soit. Finalement, ça tient à pas grand-chose parfois. Non. Et donc, il va décider d'enregistrer donc, ce titre sur l'album. Eh bien, on peut dire effectivement qu'il a été bien inspiré ce jour-là, puisque Je l'aime à mourir va se classer numéro 1 et lui permettre de faire décoller sa carrière, puisqu'à l'époque, il n'était pas encore connu. Et donc, on va le connaître pour ses paroles poétiques, ses images et ses balades acoustiques et romantiques, hein, comme on le connaît maintenant.
Et la cabane au fond du jardin.
C'est ça. Donc, le single « Je l'aime à mourir » donc va sortir en juin 79 et donc va faire bondir les ventes de son deuxième album. Donc, son album s'est vendu, il y a eu 600 000 albums vendus et donc à l'époque, c'était des 45 tours. « Je l'aime à mourir », lui, va s'écouler à 700 000 exemplaires, ce qui reste, semble-t-il, la plus grosse vente parmi les succès de Francis Cabrel. Donc, il faut croire que c'était quand même énorme. Je ne me rends pas bien compte. Donc, à partir de cette période-là, Je l'aime à mourir, qui reste la chanson quand même la plus connue à l'étranger, donc elle va voyager. Et là, je vais vous proposer un petit voyage. Vous allez ouvrir grand vos oreilles. Et donc, je vais vous proposer différentes versions. Il va falloir retrouver un petit peu les langues ou parfois même le style musical.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Yo sono il guardiano del sonno che fa, io l'amo così Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa
Je nos radia hlas, těší nás Předpovědí počasí
De la vie, el amor aussi
Crying for your eyes like a child in the cold And I live by your side till the day I am old Je t'aime à mourir
Non lo so bene, la guerra nella vita E dell'amore da
me And how do you feel?
Alors on a fait un petit tour effectivement, donc en 79 il va enregistrer dans la foulée donc le tube en italien, donc on avait un petit aperçu de l'italien, et puis ce qu'il faut savoir c'est que sa chanson très vite va en Espagne va exploser grâce à un chanteur gitan, Manzanita, et là ça va déferler je dirais en Espagne, et puis ensuite en Amérique du Sud également, où là il va être en Amérique latine et même jusqu'aux États-Unis puisqu'on entend Rock Voisine qui fait une réinterprétation en anglais, c'était Until Death to Do a Sport.
Seul sur le sable, je l'aime à mourir.
Voilà, donc les Boys Bands, j'avais oublié que moi, Alia, j'avais repris aussi le groupe. Alors, normalement, il y avait un petit morceau salsa et j'étais très surprise parce que je dansais dessus quand je faisais de la salsa et je me souvenais plus. C'était sa chanson à lui. J'ai rigolé hier soir en me disant, mais c'est ça.
C'était
en fait.
Ça.
Donc, Shakira. Alors, effectivement, Shakira en 2011, hein, chanteuse colombienne, va faire à nouveau ressortir
cette
donc,
chanson.
Son,
parce
cette
qu'elle
chanson.
Chante en français un peu dessus.
Ouais. Et elle va chanter effectivement en espagnol et également en français. Et finalement, voyant que ça a bien répondu, elle l'a sortie en single. Et effectivement, elle est restée numéro 1 un certain temps. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait en tchèque aussi.
En tchèque ?
Ouais, en tchèque. Et également, après, on retrouve une version, on n'a pas trop entendu reggae et un peu zouk love.
Oh,
donc,
cool.
Comme quoi, finalement, je l'aime à mourir encore de moments devant
très
elle.
Très bien. Bah, tu voulais nous faire écouter une petite version, c'est laquelle qu'on écoute ?
La version salsa avec DLG.
Ok, merci.
Soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella
Sonia, merci Caro, Mathias et Sandra pour vos chroniques. On accueille maintenant la deuxième équipe de CMA, Summer. Il nous a averti des dangers des graines de pavot sur les burgers et autres bagels.
Ce soir, il va encore plus loin avec un sujet qui va nous faire planer, ou pas, car on y a enlevé les substances actives, paraît-il. Bonsoir Florian, donc apparemment ce soir, tu nous en fumes.
Alors, elles poussent comme des champignons depuis 2 ou 3 ans, et celles-ci ne sont pas hallucinogènes.
Aye.
Quoique, vous aurez reconnu les boutiques vendant les dérivés de cannabis sous toutes ses formes. Je vous parle ce soir du CBD, ses bienfaits et ses mystères.
D'accord, très bien. Lui est grand et poilu. Son truc, c'est de se taper les poings sur le torse en haut des buildings. Bonsoir Olivier, c'est
Bonsoir.
Quoi cette histoire?
Je vais vous parler de King Kong et peut-être que la ville de Nantes a eu une importance pour King Kong.
Ah, Nantes?
Bah oui.
Très bien.
Nantes.
La chronique suivante permettra sans doute à CMA d'être cotée en bourse. Un grand moment de liberté va souffler dans l'émission. Bonsoir Manu.
Bonsoir.
J'ai peur de ton sujet.
Non, j'annonce les choses. Vivre les couilles à l'air ou porter un vêtement. Il n'y a pas à dire, le vêtement c'était mieux après.
Ok, j'y croyais pas, mais en fait, si, elle l'a fait. Hein.
Je n'ai aucune limite, sachez-le.
Oh, ok, on verra ça. Bon, très bien. Un petit nouveau dans l'émission, ce sera sa première ce soir. Il va y aller piano. Bonsoir Robin.
Bonsoir.
De quoi tu nous parles?
Eh bien, pour moi, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Et moi, je vais vous parler des pianos et des facteurs. Alors attention, pas les facteurs qui ont un berlingot jaune ou un vélo. Et ils font pas de film avec Admirade. Mais ils ont plutôt des ciseaux à bois, des maillets, des cordes. Alors je vous préviens, si votre facteur se ramène comme ça chez vous, alors ça devient plus un début de film d'horreur. Mais on verra ça plus tard.
Oh là, ouais. Bah, ça c'est de la présentation. Hein. Allez, voilà donc une deuxième partie tout aussi passionnante que la première. Allons-y, vous êtes dans CMA. C'est dans sa chambre qu'il a sucé pour la première fois son CBD.
Oh.
Mais rien de sa chronique n'a fuité. Normalement, avec autant de joints. En espérant qu'il ne tienne pas uniquement sur un papier de cigarette, voici le sujet de Florian.
À tous les fumeurs de CBD, I want it to be.
Et oui, alors on va commencer par une définition, quand même. Qu'est-ce que le CBD? Alors, c'est pas le dernier burger à la mode d'un resto rapide.
Ah, c'est vrai, il y avait un truc qui s'appelait comme ça, ouais.
Voilà.
CBO?
Merci, Caroline.
Tout de suite, elle connaît.
Donc, le CBD, ça signifie cannabidiol. Enfin, c'est cannabidiol, et en fait, on l'a contracté en CBD. Donc, c'est un des composants de la plante cannabis sativa, qui s'appelle autrement le chanvre, tu l'as dit, Bruno. Voilà, ça se trouve dans le chanvre.
Dans le chanvre.
Alors, pendant longtemps, les choses n'ont pas été très claires concernant le chanvre et tous ses composants, qui sont principalement le THC et le CBD.
C'est un théâtre à Beaucouzé, ça?
Non. Bah, le THC, c'est l'élément
d'accord, bien,
bien plus fort et stupéfiant du cannabis.
Oui, c'est ça,
du cannabis.
Le
bédo. Intéressant, quoi.
Alors, encore aujourd'hui, hein, ça reste flou juridiquement en France. Et donc on va faire un petit tour de l'état du droit actuel pour commencer la chronique. Je voudrais pas qu'on soit sous le coup de...
Mais tu nous en as amené là, on
alors,
en a
j'en
là.
Ai amené effectivement.
On peut essayer d'en manger alors.
De chewing-gum au CBD.
C'est marqué qu'il y a 5 mg de CBD. Alors on va le prendre en direct, c'est légal.
Allez,
hein.
Allez.
Donc on le prend en direct, alors, je vous passe le truc et puis vas-y tu peux faire ta chronique, on verra si on plane.
Alors donc, est-ce que c'est légal ou pas? Oui effectivement, est-ce que vous allez le manger? Mais je vais vous dire que... Bon. Alors la loi française... alors. Après que la loi française a interdit la vente de cannabidiol, donc de CBD,
oui.
Après que la loi française interdisant la vente de cannabidiol ait été déclarée contraire à la législation européenne,
donc à l'envers, d'accord.
Voilà.
Donc ils l'ont permise.
La Cour de cassation a jugé légal le CBD et sa commercialisation dans sa forme issue de la plante de la variété sativa.
Mmh.
Donc voilà. Toutefois, elle n'éclaircit pas le statut des fleurs de chanvre. Parce que le CBD est contenu dans les fleurs, donc on extrait le CBD des fleurs de chanvre, mais elle ne donne pas de statut à la fleur en elle-même. Donc elle ne dit pas si c'est légal ou pas légal.
Mmh.
D'ailleurs, la MILDECA, donc c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, reconnaît la légalité du CBD, mais conteste l'utilisation d'allégations thérapeutiques. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de dire que le CBD
soigne
ou est bon pour telle ou telle chose. Donc j'emploierai le conditionnel tout au long de ma chronique sur les bienfaits du CBD.
Non, je sais pas quel goût ça a. Là, ça a de la menthe. Hein. Ça a le goût de menthe.
Alors oui, bah y a plus de menthe que CBD quand même. Mmh. Hein. Je crois dans la composition.
Oui, pas. Je plane pas pour l'instant, ça va.
Il y a un petit côté marketing aussi maintenant sur le CBD.
Oui, je pense. Ouais.
Voire beaucoup.
Du coup,
Alors, une dernière info pour être totalement clair avec la loi, c'est que la commercialisation, la consommation de CBD, c'est OK s'il comporte moins de 0,2% de THC. Parce que quand on extrait le CBD, il y a plusieurs techniques différentes, mais c'est difficile de faire de séparer tous les composants du chanvre. Et parfois, on extrait le CBD, mais il y a du THC qui arrive avec. Et donc, il faut que les industriels s'assurent qu'il y ait moins de 0,2% de THC.
D'accord, donc si chez soi, on se fait pousser son propre chanvre, c'est impossible de dire « Non, moi, j'ai fait que du CBD, j'ai pas fait de THC. »
Oui, 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 oui.
Il y aura forcément des deux.
Puis en plus, ça ne sera pas le même chanvre qu'on voit dans les champs, parce qu'eux, ils ont beaucoup moins de THC que ceux qu'on cultive.
Ouais, ils ont pris d'accord.
Ou qu'on pourrait cultiver chez soi. Alors, quels sont les bienfaits? Parce qu'on entend, ça pousse, voilà, je vous ai dit, les boutiques, il y en a partout maintenant. Il y en a parfois 3 et 4 par rue. Est-ce que vraiment il y a des bienfaits ou pas? Alors, on dit que le CBD aurait des vertus anti-inflammatoires, anti-douleurs, aurait une action sur le stress oxydatif, le stress émotionnel, l'anxiété. Le CBD favoriserait la détente, la relaxation. Il aura également une action positive contre les troubles neurologiques, et notamment la dystonie, l'épilepsie, la maladie de Parkinson, les syndromes autistiques et la schizophrénie.
Eh ben, oui, ça.
Il retarderait même l'apparition de maladies dégénératives, et il permettrait de prévenir et traiter l'acné. Waouh.
Eh bien,
tout ça.
Bref, j'en passe, hein, parce qu'on trouve tout et d'ailleurs n'importe
mais
quoi.
Mais du coup, on n'a pas le droit de dire ça, en fait.
C'est pour ça que j'ai utilisé le conditionnel.
C'est ça.
Il pourrait avoir des effets.
Mais pourrait.
Parce que je n'en sais rien en fait moi-même. Alors il y a plein d'études qui disent que oui, qui disent que non, enfin bref.
On te dira, on est en train d'apprendre là.
Alors vous aurez compris, le CBD fait tout et un peu n'importe quoi. On lui prête des vertus incroyables, comme le chocolat d'ailleurs. Le chocolat, on peut.
Ça c'est vrai.
Alors, c'est vrai, je sais pas. Hein.
Bon, c'est bon, donc c'est vrai.
Alors, j'avais écrit une chronique l'année dernière.
Oui, sur le chocolat.
Donc,
voilà. Il y a du magnésium et tout, donc c'est bon.
Alors d'ailleurs, le chocolat agit quasiment de la même façon dans l'organisme que le CBD, c'est-à-dire que il agit sur des récepteurs cellulaires CB1 et CB2 qui sont présents dans.
Mais pourquoi on fume pas du chocolat
dans notre corps. C'est vrai, c'est une bonne question.
Ouais, pas con.
Alors c'est pas les mêmes molécules, mais en tout cas ils agissent sur les mêmes récepteurs, sur les mêmes récepteurs en fait pour.
Okay.
Voilà. Mais je vous parlerai des récepteurs CB1 et CB2 une autre
fois. Je vais me rouler une petite tablette,
si vous voulez. Donc ça c'est les bienfaits. Alors il y a plein d'études encore aujourd'hui qui sont en cours pour mieux cerner le CBD parce que finalement c'est pas si vieux que ça. Alors même si on utilisait déjà la plante
donc
depuis...
Tu es en train de nous dire que là c'est légal, on est en train d'en prendre, mais ça se trouve c'est de la merde quoi, c'est ça? On est en train de s'empoisonner.
Ah bah ça.
Merci, sympa.
Donc en fait la plante elle est connue depuis très longtemps et on connaît un petit peu ses effets, mais en fait le CBD n'a été isolé en fait de la plante qu'en 1940 par un chercheur américain. Voilà, il a dit ça, c'est du CBD. D'ailleurs, on a trouvé le THC en même temps, enfin voilà, et on a trouvé les fameux récepteurs et à quoi servaient les récepteurs en même temps que.
Donc ça a été utile aussi.
On a trouvé tout ça, donc ça a été utile pour la compréhension aussi de notre corps à nous. Mais, est-ce qu'il y a peut-être pas, ou peut-être d'ailleurs, baleine sous gravillon? Je ne sais pas, parce que je vous ai parlé des bienfaits. Mais il faut quand même rester vigilant. Alors que vous preniez du CBD sous forme d'huile, parce que maintenant il existe plein de trucs, hein, sous forme de chewing-gum, sous forme d'huile, où en général la concentration de CBD est entre 5 et 20%, sous forme de fleurs séchées, la concentration est entre 3 et 9%, sous forme de cristaux, sous forme de e-liquide, ou sous forme de bière, même de la bière au CBD.
N'importe quoi.
Maintenant on fait tout plein de produits dérivés à base de CBD. Il convient quand même de rester prudent et de prendre un avis d'un médecin ou d'un pharmacien, notamment en cas de troubles cardiaques, de troubles artériels et autres soucis de santé. Donc gardons aussi un œil sur la provenance et la traçabilité, qui pour le moment n'est pas forcément...
Bah c'était la dernière émission de CMA, on en a tous pris là, donc...
Et attention, le CBD à forte dose fait dormir aussi. D'ailleurs, on en prend aussi, les personnes qui souffrent d'insomnie peuvent en prendre.
D'accord.
Mais, si
mais on n'a pas le droit de le dire.
J'ai lu sur le paquet quand même que ça pouvait, à forte dose, avoir un effet laxatif.
Et aussi.
Effectivement. Comme tout chewing-gum. Hein, donc, oui, effectivement.
Oui, c'est sur le chewing-gum, effectivement. Ouais.
Bon. Oui. Voilà. Ok. Merci, voilà. Florian.
Je plane.
Ouais, c'est cool. Il est tellement célèbre qu'il ne sort plus qu'avec ses gorilles. Voici la chronique d'Olivier.
Oui, Alors, je voulais vous parler du film King Kong. Il y a eu plein de films King Kong. Il y a eu un film en 1933, c'était le premier film King Kong. Après, il y a eu un remake en 1976 et puis en 2005 avec Peter Jackson. Mais j'ai voulu voir qu'est-ce que c'est King Kong, d'où vient King Kong en fait, d'où ça vient.
Alors, de la jungle.
Oui, c'est vrai. Mais alors, ça m'a assez fasciné. Je suis remonté au 19e siècle, à la moitié du 19e siècle. C'est un siècle qui est marqué par les grandes explorations, la colonisation aussi. Le monde occidental découvre l'Afrique, l'Inde, l'Amérique du Sud. Au milieu du 19e siècle aussi, c'est la première fois qu'on observe directement des gorilles par les Occidentaux. Donc il y a beaucoup de reportages, de mémoires sur les gorilles. Il y a aussi au 19e siècle, donc, petit à petit, il y a le thème de la bestialité. D'ailleurs, Edgar Allan Poe, en 1841, a écrit « Double assassinat dans la rue Morgue », où, je vous spoil, c'était en fait un orang-outan qui commettait le meurtre. Voilà. Et en 1859, il y a un jeune sculpteur, Emmanuel Frémiet, qui est un sculpteur animalier, et qui sculpte une œuvre qui s'appelle « Gorille enlevant une femme ».
Donc, il nous fait voir la sculpture.
La sculpture est exposée à Paris, l'œuvre fait scandale. Il faut dire qu'en 1851, on est en plein dans la parution de l'évolution de Charles Darwin. Donc la sculpture fait un peu scandale, à tel point qu'à Paris, l'œuvre est exposée dans une niche qui est cachée par un rideau, et seuls les hommes et les femmes mariées peuvent soulever le rideau pour pouvoir voir cette
œuvre. Une petite intervention.
Oui. Il a un tout petit zizi.
Ah, d'accord, les singes, oui.
Alors l'œuvre que vous voyez
n'est pas réputée pour ça.
Elle va être détruite en 1861, et Frémiet va présenter quelques années plus tard une deuxième version, qui elle est conservée actuellement au musée des Beaux-Arts de Nantes. Donc la sculpture est exposée aux États-Unis par la suite, et les ventes de ces petites productions, il y a une vente de statuettes qui va être faite, ça va être des répliques de cette œuvre, et elles vont avoir un succès assez étonnant auprès du public américain. Par la suite, donc cette œuvre, elle est reprise en 1917 par le gouvernement américain. Donc on est pendant la Première Guerre mondiale, et donc c'est une affiche de propagande nord-américaine qui est ainsi publiée. Donc on voit un gorille avec un casque prussien. Il symbolise donc l'ennemi allemand. Et vous voyez, il
on voit, hein. Il nous fait voir autour.
Il est
là,
sur le sol de l'Amérique, America. Et derrière, au fond, on voit l'Europe dévastée, et notamment la cathédrale de Reims qui a été bombardée en 1914.
D'où
par les Prussiens. Voilà, et là on n'est que quasiment 16 ans avant le film King Kong. Hein. Donc, l'affiche, elle reprend vraiment la symbolique de King Kong. Ça. On voit un King Kong qui enlève une femme, enfin le singe qui enlève une femme dans ses bras. Alors King Kong incarne en fait les peurs de l'Occident. C'est un peu la force naturelle que l'homme cherche à dominer. C'est aussi la barbarie qui menace de détruire la civilisation moderne. C'est pour ça que King Kong s'attaque à l'Empire State Building, s'attaque au World Trade Center dans les différents films. Ce qui est important dans King Kong, c'est qu'il ressurgit à chaque crise, parce qu'en fait, il catalyse la peur de la société. Par exemple, il faut savoir que King Kong est toujours sorti dans des époques de crise. En 1933, c'est la Grande Dépression aux États-Unis. Donc ça symbolise un peu la Grande Dépression, la peur que les Américains pouvaient avoir. En 1976, on est pendant la crise pétrolière qui a marqué les esprits. Et puis récemment, Peter Jackson a repris le film en 2005. On peut peut-être dire que c'est un peu 2005, après l'après-terrorisme et tout, c'est un peu aussi une peur bleue. Voilà.
Mais disons que c'est pour dénoncer cette peur, puisque King Kong, à chaque fois, il est gentil, en fait.
Oui, il est gentil, mais c'est vrai. Il y a toujours...
En fait, on n'a pas raison d'avoir peur.
La nature.
Oui, c'est ça, on n'a pas raison d'avoir peur de lui.
Il fait peur à l'homme. Quoi.
Et voilà, c'est la nature qui fait peur.
La différence entre la belle et la bête, quoi. Mais c'est quand même avant tout la peur de l'Occident. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Très bien.
Ça remontait aussi loin.
Ouais, ça remonte très loin. Effectivement, donc c'est pas un livre, c'est plutôt une sculpture et puis une image. Merci. Dans un instant, on parle de piano et d'entrejambes en l'air. Il n'y a pas de meilleur teasing. Juste avant, voici une minute pour répondre aux questions que vous nous posez sur Radio G. Le Graal s'intéresse maintenant au nom des mois de l'année.
Question d'Élise Dallone. D'où viennent les noms des mois?
De toi à moi, Élise, c'est une bonne question. Enfin, 12 bonnes questions. On commence par le mois de mars. C'est le commencement de la saison de la guerre. Bon, qui dit guerre, dit mars, hein, dieu de la guerre. Février vient de februare, qui veut dire purifier. Avril, c'est Aprilis, l'ouverture des fleurs. Mai, c'est en l'honneur de Maïa, pas l'abeille, hein, mais la déesse. Juin, de Junon, la femme de Jupiter. Juillet, c'est pour César. Août, c'est l'empereur Auguste. Septembre, septième mois du calendrier de l'époque, pas con. Octobre, huitième mois, repas con. Novembre, neuvième, oui, vous avez compris, pour décembre. Jules César, 46 ans avant ses initiales, décide alors qu'en fait, l'année commencera en janvier, car c'était le mois où les magistrats prenaient leurs fonctions. Janvier vient de Janus, le dieu symbolique du changement. Et bien donc, tout cela, c'était le Graal que vous pourrez retrouver sur radio-g.fr et vous pouvez même poser vos questions. Allez, vous êtes toujours dans CMA et c'est le moment le plus couillu de l'émission. Voici, attention, son jingle, la chronique de Manu.
Moi, je m'en fous, j'ai du poil au cul, ça me tient chaud l'hiver. L'été, je me les fais couper pour mieux respirer.
Et voilà.
Merci Bruno. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'appelle Laurent et je suis le premier être à avoir eu l'idée de porter un vêtement. Alors, je voulais m'appeler Ralph, mais la consonance était trop proche de celle de Raph, qui, je le sais, est un adepte du naturisme, mais chut, il ne souhaite pas forcément que ça se sache. Alors, je choisirai donc le prénom de Laurent pour plus de discrétion. Et pour être tout à fait honnête, il me faut vous avouer que l'association des deux prénoms, Ralph et Laurent, ouvre parfaitement mon propos, puisqu'il évoque en toute simplicité, bien sûr, le nom et prénom d'un créateur de mode, n'est-ce pas, Caroline ?
Ah oui.
Et quoi de plus naturel quand on parle de vêtements. On a fait le lien, évidemment. Donc, je m'appelle Laurent, je suis un homme, mais j'aurais aussi pu être une femme. J'en veux, pour exemple, le sein de Sophie Marceau et les couilles de Lenny Kravitz. Nous avons vu et revu l'un quand les deux autres ne sont plus jamais reparus. Voir la poitrine de madame s'offrir aux yeux du monde est plus agréable que les couilles de monsieur. J'ai donc choisi d'habiller monsieur. Bref, je m'appelle Laurent et je suis le premier être à avoir eu l'idée de porter un vêtement. Mais avant que l'idée de la sape ne germe dans ma tête, j'ai passé un temps phénoménal, complètement nu et tout velu. Alors longtemps, j'ai porté des poils qui composaient ma fourrure et me protégeaient du froid. Quand ceux-ci sont devenus plus rares, ma peau s'est lentement teintée, passant du rose pâle au hâle d'un été ensoleillé. Mais je suis restée déshabillée. Donc, ce n'est qu'il y a, 107 000 ans que m'est venue cette idée. Si vous croyez que cette invention était animée d'un intérêt pratique et protecteur, sachez que vous vous fourrez le doigt dans le nez, poil au nez. Sans poil, le mammifère que je suis ne craint plus le froid depuis que je détiens en poche, si je puis dire, la faculté de faire du feu. Ce n'est donc pas pour éviter le froid que je me vêtis la première fois. Alors quoi ?
Ils étaient pudiques ?
On a vu en Amérique ou en Australie des tribus combattre, l'une habillée et l'autre cul nu. La tête à l'air, tout comme mon derrière, la pudeur n'est pas non plus ma conseillère. En revanche, où que nous soyons sur la planète, l'ornement est une distinction tout à fait nécessaire. Sa fonction première est avant tout de me conférer un statut et d'impressionner mon entourage. En fait, et pour le dire simplement, la mode est ma motivation suprême, Caroline ! Tout nu, d'accord, mais avec prestance et élégance, je me distingue comme un doudingue, à poil, mais en cravate. C'est important. C'est ainsi que j'intimide, j'impressionne par ma perruque de bonhomme, dotée d'un panache et d'un gourdin, un bouclier phallique, évidemment, dans l'autre main. Ce n'est que 50 000 ans plus tard que le vêtement trouvera sa fonction pratique et technique que nous connaissons aujourd'hui, qui me protège du froid. Je finirai donc par perdre ce qu'il me reste de poils à ce moment-là. Les codes sociaux m'inviteront peu à peu à cacher ce que la morale réprouve. Quelques tentatives pour y échapper seront lourdement sanctionnées. Les seins, comme les attributs masculins, disparaîtront sous des toilettes, au demeurant très très chouettes, évidemment, jusqu'à parfois réapparaître maladroitement au détour d'un concert ou d'un gala. J'avoue quand même que ça m'aurait bien amusé, mais un peu dégoûté, de voir un concert de Johnny à poil ou les poils de Johnny à un concert. Heureusement, la question ne se pose plus. Alors, CQFD, vivre les couilles à l'air ou porter un vêtement, il n'y a pas à dire, le vêtement, c'était mieux après.
Merci voilà. Manu. Bon ben voilà, elle vient pas souvent mais quand elle vient, hein, ça on la voit passer, c'est très bien. Allez, il stresse depuis le début de l'émission, c'est maintenant à son tour de faire sa première chronique dans CMA. Voici Robin.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je stresse.
Bah, t'as non, du non, CBD là, c'est bon. Cool.
Ah, mais oui, c'est vraiment plein, mon plein. Non, mais alors, du coup, bonjour, encore une fois, merci. Hein, et bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous parler donc du piano. Je vous fais pas l'histoire en disant depuis le début, depuis que l'homme est homme, il aime la musique, blablabla. Non, le piano a été inventé en 1709 par Bartolomeo Cristofori, un facteur italien. Ces fameux facteurs, justement. Alors en musique, les facteurs sont des artisans qui conçoivent, produisent et réparent les instruments, et notamment les claviers. Donc, pas de panique, ces ciseaux n'ont pas l'objectif de finir dans les yeux de quelqu'un. Hein, Bartolomeo crée en 1709 le clavicembalo col piano e forte, ou en français le clavecin pouvant jouer piano et forte.
Piano. Ah oui, d'accord, au départ, donc c'est vraiment clavecin au départ.
Exactement.
Et c'est le piano, c'est déclinaison.
Alors, piano et forte, pour ceux qui ne sont pas mélomanes, c'est des indications de volume en musique, piano doucement, forte.
D'où piano,
fort.
Piano.
Exactement, pianissimo. Et on a gardé simplement pianissimo, le ouais. Piano de ce mot. Son nom le précise, comme tu l'as dit Bruno, il s'est inspiré du clavecin, un instrument ressemblant beaucoup au piano, avec quelques différences près, notamment les touches noires et blanches du piano sont inversées au clavecin, et oui. Les cordes étaient pincées sur le clavecin et non pas percutées par des marteaux comme le fait le piano.
Ce qui donnait un son un petit peu plus... Ben on retrouve ce que disait Sonia tout à l'heure avec les cordes pincées sur les guitares, c'était à peu près le même principe.
Exactement, ça permet beaucoup plus de nuances, et c'est justement donc la percussion avec les marteaux qui lui permet de faire beaucoup plus de nuances sonores. On lui donne aussi comme cousin le dulcimer. Alors, fort intéressant et pas très connu. C'est une boîte sur laquelle les cordes sont tendues comme une guitare, mais avec beaucoup plus de cordes, hein, évidemment, qu'une guitare. Plutôt que de les gratter ou de les pincer, on fait avec un petit marteau, avec deux petits marteaux dans les mains. Mm-hmm. Et c'est une musique, enfin, c'est un instrument qui vient du Moyen-Orient et qui a produit des musiques merveilleuses. Je vous invite à les voir un peu sur Internet, le dulcimer. Le 18e siècle, c'est l'essor de la musique classique et... Le piano arrive. Merveilleux, les virtuoses et les compositeurs de génie sauront l'utiliser, le sublimer et même l'améliorer. Originairement, il est composé de 54 touches et il va passer à 88 touches en 1890. Alors tiens d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il est de 88 touches et pas 122 ou 306
c'est par rapport aux octaves, oui c'est ça, oui, aux notes.
Ouais. En fait, c'est ça. C'est parce que notre oreille, l'oreille humaine, ne peut pas entendre toutes les nuances. Notamment, en fait, on a entre 20 Hz et 20 000 Hz.
20 kHz, oui.
Oui, c'est ça, de d'audition. Mais on ne reconnaît la musique qu'entre 25 Hz et 4 000 Hz.
D'accord. Donc, ce n'est pas la peine de faire tout.
C'est
quoi.
Ça, les 88 font tout le panel.
Ok.
Bon, parlons justement de ces compositeurs de génie qui ont placé le piano sur le piédestal d'un instrument noble et de l'avoir rendu si connu. Le tout premier, vous le connaissez, c'est Jean-Sébastien Bach. Il faut se rendre compte que les partitions qu'il a écrites au début des années 1700 sont encore jouées aujourd'hui. Elles ont 300 ans, c'est fou! Tout le monde, d'ailleurs, connaît l'une d'entre elles, Toccata et Fugue. Mais si, forcément, le générique d'Il était une fois l'homme.
Ah oui!
D'accord.
Bon.
Alors, je ne suis pas mélomane, hein, évidemment, mais... Et d'ailleurs, petite anecdote sur Bach, parce qu'on parlait de poils, on parlait de seins, on parlait de couilles.
Ah oui, tout ça.
Et le Bach, donc.
Et Bach qui, en fait, était un chaud lapin, puisqu'il a quand même eu 20 enfants. C'est hallucinant. Ouais, c'est...
D'accord, on digresse un peu, là, parce que le piano, je vois pas trop. À moins que les effets sur un piano...
Piano. Oui. Ah bon, donc, après lui viennent évidemment Mozart, Beethoven, sa sonate au clair de lune, Chopin, Tchaïkovski, Prokofiev, Debussy ou Eric Satie, bref. Le piano a traversé les époques. L'évolution de cet instrument ne s'arrête pas aux 88 touches, puisqu'arrivent au début du XXe siècle les synthétiseurs. Utilisant un clavier de piano, ils peuvent aujourd'hui imiter numériquement n'importe quel instrument. On entend des violons jouer en harmonie dans la pièce d'à côté, on se dit « Ah, chouette !» Et on entre, en fait, c'est juste Tonton Dédé qui s'amuse avec le synthé.
Bon, c'est ça.
Le piano traverse les âges et les styles de musique, plus uniquement limité à la musique classique, qui va être plébiscité par le jazz, le rock, la soul, la pop, avec par exemple Stevie Wonder, les Beatles ou Supertramp qui vont l'utiliser. Et aujourd'hui, même l'électro utilise le piano, voire même le réutilise. Vladimir Cauchemar, artiste électro, s'est amusé à reprendre la sonate numéro 1 pour piano de Beethoven, avec une touche électro qui est un peu particulière. Mais il fait vivre le piano et la musique. Vous aussi, grâce à Internet et un synthé bon marché, vous pouvez apprendre à jouer de cet instrument. Et en attendant de devenir le prochain Mozart, vous pouvez apprendre au moins au clair de la lune, mon ami Pierrot.
C'est
au clair de la lune.
Oui, ah bah en plus il chante. Allez, c'est la fin de l'émission. Attention, le moment est grave. Qui a décroché sa place pour avoir sa chronique dans les CMA des podcasts de Radio G? Alors suspense. Yodelay, yodelay, yodelay. Eh bien, c'est Olivier avec sa chronique sur Dune qui a été choisie. Bravo, tu auras sur ton sujet sur la page CMA+ de Podcast Plus du site radio-g.fr. Bravo,
merci.
Allez, merci à nos chroniqueurs de ce soir. Merci Sandra, Florian, Olivier, Caroline, Mathias, Manu, Sonia et Robin. Puis bienvenue, Robin, parmi nous. Vous aussi, soyez curieux de tout et n'oubliez pas qu'on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA.